Matière à penser, Patrick Boucheron.
Avant-dernière émission de notre semaine consacrée à s'interroger sur la légitimité de parler au nom du peuple. Justement, on en discutait avant-hier avec Gérard Noiriel. Comment monter et rester peuple, c'est une expression de Michelet. Et pour la relever ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Jacquet, qui est philosophe, spécialiste de Spinoza, professeur à l'université de Paris 1. Bonsoir Chantal Jacquet.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Tout mon génie est dans mes narines, écrivait Nietzsche. Vous êtes, Chantal Jacquet, une philosophe qui réhabilite l'odorat, le plus méprisé des sens. Et encore tout récemment, dans votre dernier livre paru chez Vrin, La philosophie du kodo, l'esthétique japonaise des fragrances. Mais ce n'est pas de flair dont nous allons parler ce soir. Enfin, pas tout à fait, pas tout de suite. C'est plutôt de votre dernier livre paru au PUF, de vos deux derniers livres, Les transclasses ou la non-reproduction en 2014 et cette année, un collectif que vous avez dirigé avec Gérard Bras, La fabrique des transclasses, car on y lit une analyse sensible, j'allais dire sentie, de ce que les sociologues appellent la mobilité sociale, de ce qui l'entrave, de ce qui l'entraîne. Et oui, finalement, vous avez eu du nez parce que vous avez flairé un rat, comme disait Ivan Illich, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait un problème dans la dénomination même de la mobilité sociale. Est-ce qu'il faut parler de transfuge, de parvenu, de miraculé, de déclassé par le haut, pire encore de self-made man? Vous, ça ne vous plaisait pas, alors vous avez inventé un mot.
Effectivement, Patrick Boucheron, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre un phénomène qui est certes rare, mais qui existe, celui du changement de classe sociale, et aucune dénomination ne me convenait parce que, avant même de comprendre le phénomène, on le juge, ou même on préjuge, considérant que on va faire une ascension sociale à la force du poignet, c'est la figure du self-made man, soit on va être...
Qui se fait tout seul, ce qui n'est pas possible.
Qui se fait tout seul, ce qui est impossible, c'est nier la réalité sociale et tout ce que l'individu doit aux échanges avec sa famille, ses amis, les mondes sociaux qu'il fréquente. Soit on a tendance à l'isoler et à considérer qu'il est un miraculé, une exception dans un paysage voué à la reproduction sociale. Soit on parle de transfuge de classe, mais même ce terme-là qui indique le fait qu'il y a un passage de classe est marqué axiologiquement puisque il sent toujours un peu le traître, celui qui a fui le transfuge et il a changé d'allégeance. Il a fui. Et c'est pourquoi je souhaitais appréhender cette réalité sociale de manière libérée de tout jugement de valeur, de manière neutre. Et j'ai forgé ce néologisme transclasse pour décrire le fait que l'on passe de l'autre côté, bien qu'on puisse rester attaché à sa classe sociale, donc que l'on passe du moins économiquement, par exemple, et m'interroger sur ce phénomène en tant qu'il mobilise toute une série de conditions, de déterminations différentes, des déterminations qui sont économiques, sociales, historiques, mais aussi plus intimes, familiales, faits de rencontres, faits de modifications liées à des affects, à donc ce qui lie au fond l'intime et l'historique, la petite histoire avec la grande. Alors dans l'idée de transclasse, il y a cette idée d'un passage de l'autre côté, sans que l'on puisse savoir si au fond ce passage, qui se fasse dans un sens comme dans l'autre, est préjudiciable à l'individu ou au contraire bénéfique, donc le comprendre sans le valoriser ni le dévaloriser, ce que fait le terme parvenu par exemple.
Mais c'est évidemment en parlant de transclasse comme on parle de transgenre, par exemple, on parle d'un passage qui transforme.
On parle d'un passage qui transforme, ou du moins qui ne laisse pas indemne, puisque les figures du passage peuvent être multiples, mais elles impliquent qu'il y ait une forme de déconstruction de l'identité première, je mets identité entre guillemets, même si à la radio il est difficile de rendre ces guillemets, parce que au fond, ce que nous montre le passage de classe sociale, c'est que nous sommes fabriqués par notre classe sociale, nous sommes fabriqués par notre famille, et dans l'intégration à un nouveau milieu, il y a nécessairement une part de désidentification au milieu d'origine, il y a une part de métamorphose, d'adaptation, ce qui fait que j'ai pu comparer parfois le passage transclasse à une forme de passing, ce que faisaient les Noirs qui se faisaient passer pour blanc lorsqu'ils avaient la peau de complexion claire, parce que au fond, il y a quelque chose comme une sorte de métamorphose de l'identité. On se fait passer aussi pour bourgeois ou pour prolétaire quand on change de classe, puisqu'on adopte les codes, on les incorpore, on s'efforce de les apprendre pour mieux pouvoir s'intégrer. Alors évidemment, dans ce passage, il y a plusieurs figures, c'est-à-dire que on est obligé de détricoter une identité, de reconstruire d'une certaine façon, et donc ça met effectivement une fabrique à l'œuvre, une construction, et c'est sur ce plan que je voulais avant tout insister.
Oui, la fabrique des transclasses, le livre sous votre direction, Chantal Jacquet, et sous la direction de Gérard Bras, qui vient de paraître au PUF, et qui poursuit votre propre travail, Les transclasses ou la non-reproduction, paru aussi au PUF en 2014. Les transclasses, on a compris, ou la non-reproduction, évidemment, ça fait signe vers le travail de Pierre Bourdieu sur la reproduction que vous ne niez pas, mais justement, vous allez pointer ce qui est désigné par, disons, l'espace public ou l'espace politique, plus précisément, comme ce qui viendrait contrevenir à cette théorie qui est vraie à 90%, ceux qui passent malgré tout, et vous dites que cette non-reproduction, elle a aussi des régularités sociales, qu'elle ne peut pas être brandie par les pouvoirs pour justement justifier un ordre injuste, qu'elle a aussi une logique propre, une logique que vous allez tenter, Chantal Jacquet, de décrire.
Alors je voulais rompre avec l'idée que effectivement ceux qui changent de classe sociale apparaissent comme des exceptions qui viendraient infirmer la théorie bourdieusienne de la reproduction sociale. D'abord, je voudrais signaler que Bourdieu et Passeron, lorsqu'ils pensent cette reproduction sociale, eux-mêmes pointent les cas où cette reproduction ne marche pas à plein, c'est-à-dire notamment le cas des héritiers qui dilapident l'héritage, et puis les enfants de classe populaire qui déjouent les verdicts sociaux qui parviennent, notamment grâce à l'école parfois, à changer de classe sociale. Donc mon travail s'inscrit non pas contre Bourdieu et Passeron, mais à l'intérieur de leur propre recherche, afin de la mettre elle aussi en travail, pour voir comment en réalité reproduction et non-reproduction obéissent à des lois et des règles, et que peut-être que la non-reproduction n'est qu'une forme supérieure de reproduction, c'est-à-dire elle va être produite pour pouvoir finalement faire en sorte que la domination sociale soit reconduite de façon pérenne. Ainsi, par exemple, les transclasses peuvent être brandies comme des exemples à offrir au milieu populaire, en disant que on peut, si on en a force et l'énergie, changer de trajectoire sociale et renvoyer ainsi à l'individu sa responsabilité en matière de situation sociale, en exemptant évidemment les pouvoirs politiques de toute responsabilité dans ce domaine. Et donc je dis que parfois la non-reproduction, c'est la ruse de la reproduction, hein. On va essayer de faire en sorte que ces transclasses soient une vitrine et servent de soupape de sécurité pour supporter un ordre social qui est injuste.
C'est pour ça que ce livre et celui qui l'a suivi a connu un tel succès, Chantal Jacquet. Vous l'aviez anticipé, vous l'aviez senti, ça, que ça allait... quel nerf ça a touché dans la société française pour que ce livre ait tant d'impact, les transclasses ou la non-reproduction ?
Mais donc, je pense que ce livre permettait de sortir d'un faux débat. Celui qui consiste à transformer la pensée bourdieusienne de la reproduction en fatalité, en confondant déterminisme et fatalité, et puis celui du libre arbitre où chacun est responsable de son destin. Je pense que si le livre a rencontré un écho, c'est aussi parce que il montre comment, alors que les déterminismes sociaux jouent et que la reproduction est bien réelle, on peut produire d'autres types de trajectoires à l'intérieur même d'un cadre déterministe, sans que ça soit une fatalité, et sans recourir au libre-arbitre qui apparaît comme une forme d'illusion, dans la mesure où ça exalte les vertus d'une sorte de sujet qui se fabriquerait lui-même et qui serait pleinement maître de son destin. Donc je crois que ça a touché à cela, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse penser une puissance d'agir dans le cadre des déterminismes et que ça soit aussi quelque chose qui rende visible une réalité, qui la rende visible et qui permette d'avoir des clés pour la pensée. Parce que le travail conceptuel, ça permet parfois de regarder la réalité autrement. L'idée de mobilité sociale...
Pourquoi ça ne vous allait pas, la notion de mobilité sociale que les sociologues utilisent ?
Alors, je ne conteste pas le bien fondé de la notion de mobilité sociale en sociologie, c'était pas mon objet puisque je suis philosophe, mais une mobilité sans mobile, c'est une abstraction. Donc je voulais comprendre ce qui se passe pour ceux qui vivent ce changement de classe. Et on ne peut pas les appeler les mobiles, on ne peut pas les appeler les transfuges de classe. Il fallait donc pouvoir cerner une réalité.
Et déclasser par le haut, ça ne vous allait pas non
plus ?
Alors
déclasser par le haut non plus, parce que déclasser par le haut, ça suppose nécessairement que le changement de classe sociale est une forme d'ascension. Alors c'est pour ça que Michelet, à mon avis, a mis l'accent sur un point fondamental, monter et rester soi. Et l'idée de monter, ça me paraît une supercherie, parce qu'effectivement, Michelet pose la vraie question, celui qui connaît le changement de classe sociale, on peut dire qu'il y a gagné du point de vue économique, c'est certain, mais est-ce que c'est véritablement une élévation par le haut, si celui qui change de classe sociale devient une sorte de chien de garde du pouvoir, ou si effectivement il oublie la condition misérable dans laquelle il provient. Et puis, on peut dire que celui, inversement, qui fait la trajectoire en sens inverse, qui, issu d'un milieu aristocratique ou bourgeois, va, comme l'ont fait certains établis, travailler aux côtés de la classe ouvrière pour essayer de lui faire prendre conscience ou partager un destin, est-ce qu'on peut dire que c'est un déclassement ? Est-ce que au fond il n'y a pas là l'idée d'un idéal plus élevé ? Bien sûr, je ne nie pas le fait que quelqu'un qui connaît une dilapidation de son héritage ou quelqu'un qui d'un seul coup voit ses revenus s'effondrer ait une situation dégradée du point de vue économique, mais est-ce que ça implique nécessairement que ça soit un déclassement de son être tout entier ? Voilà la vraie question.
Et c'est la vraie question que pose Michelet. Restons sur Michelet. Tiens, le peuple, on en parlait avant-hier. Il y a effectivement, vous l'avez noté dans votre livre, Chantal Jacquet, et puis Gérard Bras, qui coordonne la fabrique des transclasses avec vous, le reprend. Il y a deux modèles chez Michelet, et en particulier dans le peuple, qui sont antagonistes. C'est le modèle du bâtard et le modèle du barbare. Lui, il veut que le peuple soit le barbare, au fond, du monde, contre le bâtard. Alors, c'est pas très élégant, et on voit bien que tout crisse et tout nous pose problème dans ce texte. Mais écoutons-le, c'est le portrait terrible du paysan parvenu. Vous le trouverez partout dans le monde, avec sa voix qui couvre tout et cachant sous ses gants classés les grosses mains de son père. Je m'exprime mal, le père les eut fortes et le fils les a grosses. Le père, sans nul doute, était plus nerveux et plus fin, il était bien plus près de l'aristocratie, il ne parlait pas tant et il allait au but. C'est un texte terrible, y compris pour nous, les intellectuels, qui parlons beaucoup quand même.
Effectivement, Patrick Bouchon, c'est un texte qui donne à penser parce que il nous amène à revenir sur nos présupposés selon lesquels le changement de classe sociale avec non seulement la métamorphose économique mais la métamorphose culturelle qu'il implique serait toujours un gain. Et cette formule le père a les mains fermes et vigoureuses et le fils les a grosses montre bien qu'il y a une forme d'abâtardissement, autrement dit qu'il y a une perte dans ce qui est généralement présenté comme un gain absolu. Autrement dit, Michelet nous invite à réfléchir sur la signification de ce passage, sur sa valeur, et interdit de répondre d'emblée par l'affirmative. Donc, il nous demande de nous arrêter sur cette question et de savoir s'il n'y a pas une forme d'abâtardissement dans ce que l'on appelle l'ascension sociale. Au fond, est-ce que, paradoxalement, en montant, on ne commence pas une forme de descente et de dégénérescence, hein, c'est la question qui nous invite à poser. Et inversement, la figure du peuple qu'il appelle barbare, qui s'oppose à celle du bâtard, même si elle peut apparaître comme un peu caricaturale ou en miroir, elle nous invite à penser que d'abord, ce parcours ne doit pas être un parcours solitaire. C'est-à-dire que les transclasses ne sont pas la solution, ils ne résoudront pas le problème des classes sociales, de la domination, de l'injustice sociale. Ça n'est pas parce qu'un individu s'en sort que la condition des autres est changée. Et chez Michelet, ce qui est important, c'est l'ascension du peuple. C'est jamais un mouvement individuel, c'est un mouvement collectif. Et à travers la notion de barbare, alors pour nous, ça peut paraître choquant, puisque nous voyons effectivement le barbare comme celui qui détruit tout. Au contraire, pour Michelet, le barbare, c'est celui qui va affirmer d'autres valeurs, qui a du sang neuf dans les veines, d'une certaine manière, parce qu'il ose affirmer ce qu'il est, parce qu'il essaye de fabriquer l'humanité de demain. Alors, on peut récuser ces oppositions, puisque là encore, comme Gérard Brall a très bien montré dans son livre Les Voix du Peuple et dans son article, c'est un peuple contre un autre, un peuple barbare contre un peuple bâtard qui est joué, il y a une forme d'équivocité, mais ça dit quand même quelque chose du fait qu'un transclasse ne doit pas est d'emblée pensée comme le modèle d'une ascension, hein, qu'elle soit économique, culturelle, sociale ou morale.
Contre quoi écrivez-vous, Chantal Jacquet ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous exaspère particulièrement dans le discours politique et contre lequel, effectivement, vous fourbissez ces armes théoriques en décrivant ce que sont les mobiles des transclasses ?
Alors, généralement, je n'écris pas contre. J'écris parce que j'ai envie d'exprimer ce que je pense profondément, ce qui me paraît exprimer ma philosophie dans ce qu'elle a de plus intime, mais à travers ce travail, ce que je voulais avant tout éliminer, c'était cette espèce d'axiologie, de récupération politique, tout ce discours sur la méritocratie qui ne comprend rien aux réalités sociales, qui en fait ne fait que conforter cet ordre social et l'injustice, puisqu'au fond, non seulement ceux qui sont pauvres, ceux qui sont prolétaires, ceux qui sont sans travail, sont déjà au bas de l'échelle sociale, mais en plus, à travers l'idéologie méritocratique, on les rend responsables de leur destin. Donc, c'est au fond une double peine. Première peine, il y a la situation sociale déplorable. Et seconde peine, c'est qu'on considère qu'au fond, eh bien, leur situation est juste, précisément, puisqu'ils en sont responsables, parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir. Donc c'est un petit peu ça qui me dérange dans le discours sur la méritocratie.
Et c'est comme ça que votre livre est lu aussi politiquement, comme une charge contre le mérite, et peut-être aussi, puisque Chantal Jacquet, vous enseignez à l'Université Paris 1, vous êtes universitaire, contre l'excellence, autre mot de passe de notre modernité.
Effectivement, l'excellence, c'est le mot d'ordre. Et si on regarde ce qu'il y a derrière l'excellence, eh bien, je pense que c'est l'autre nom de l'exclusion. Parce que s'il y a des élus, il y a des exclus. Or, moi, si j'avais à défendre quelque chose, c'est pas une société qui serait une société de partage et de classe entre des élus et des exclus, des premiers de cordée et des laissés pour compte. Ce qu'il s'agit de comprendre et de constituer, c'est une société qui soit juste, de telle sorte qu'on donne à chacun sa place, là où il est, et qu'on essaye de produire des conditions sociales rendant justice véritablement à chacun. C'est vraiment la question de la justice qui me paraît centrale.
Donc vous voyez bien qu'on écrit quand même pour éliminer des mots, quel que soit l'orthographe de mots.
Hein. Oui, mais pour promouvoir aussi l'idée de justice.
Alors donc pour se laver les oreilles un petit peu, vous nous avez amené de la musique.
Effectivement, les Rolling Stones.
Ah ben, on l'écoute et on en reparle peut-être après.
Everywhere I hear the sound of march in Georgia, feet, oh, and the time is right for fighting.
Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Et en compagnie de Chantal Jacquet, professeur à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui en philosophe étudie la question des transclasses qui nous a amené les Stones. Pourquoi les Stones ?
Alors les Stones, c'est une longue histoire, Patrick Boucheron, mais en deux mots, c'est aussi parce que à travers la musique, à travers le rock, il y a eu beaucoup de transclasses qui ont pu émerger, puisque précisément la musique s'exprime une forme de lutte et de rébellion. Alors il s'agit ici de Street Fighting Man, c'est-à-dire cet homme de la rue qui lutte, qui grâce à son énergie et cette lutte menée peut justement faire rouler les choses et faire bouger. C'est la dimension du rock'n'roll et devenir un rocker à son tour avec toutes ses difficultés. Donc ça nous demande de réfléchir aussi sur le passage. Donc voilà, je voulais faire un bout de chemin avec les Rolling Stones qui nous oblige effectivement à faire bouger les choses, à transgresser aussi.
Alors parlons de la lutte des transclasses avec vous, Chantal Jacquet, et en essayant de comprendre justement où elle mène. Dans un beau compte-rendu, j'ai trouvé très généreux de votre livre, qu'il a publié sur son site Philolarge, Pierre Macheret, rapproche l'expérience du transclasse de celle de l'étranger, qui est analysée par Alfred Schultz et qui désire lui aussi s'intégrer dans un milieu qui n'est pas le sien et qui doit réordonner le monde autour de lui en acceptant l'idée que son centre est la périphérie de ce monde. D'où la question de l'identité. Au fond, est-ce que vous comprenez dans la politique actuelle pourquoi, eh bien, on notamment dans une certaine gauche anti-libérale, on oppose l'étranger au peuple quand, d'une certaine manière, tout montre à vous lire que l'expérience est la même, qui est une expérience d'exclusion.
Tout à fait. C'est pour ça que la figure du transclasse est proche de celle du migrant et que leurs itinéraires, leurs trajectoires se mélangent. J'ai beaucoup appris en lisant les récits d'étrangers, d'exilés, d'immigrés, parce que ce travail de déconstruction d'identité, d'intégration, d'adaptation est analogue et peut-être même décuplé par rapport à celui qu'ont effectué les transclasses, puisque effectivement ce passage peut être du passage d'une classe sociale à la classe moyenne, d'une classe sociale ouvrière à la classe moyenne, ou avoir une plus d'amplitude, mais pour un migrant, un étranger, ce travail a effectué sur soi de déconstruction de l'identité, d'apprentissage de la différence, de métissage, il est tout à fait remarquable. Et donc, ça donne à voir en grosses lettres ce que le transclasse parfois écrit en petites lettres. Donc, il y a une grande proximité entre ces trajectoires, même si elles sont évidemment pas réductibles les unes aux autres, mais on est obligé de penser cette parenté.
Oui, il y a un très bel article dans le recueil, qui est aussi un recueil de récits de vie, hein, La fabrique des transclasses, sous votre direction, Chantal Jacquet, et celle de Gérard Brun. Très bel article, donc, de Subhatra Dhanasekaran, qui enseigne la philosophie en terminale au lycée Gustave Eiffel de Gagny, en Seine-Saint-Denis, et qui décrit sa honte au sens de Danny Ernaux, on en parlera peut-être tout à l'heure, sa honte d'être à la fois chassé de la langue de ses parents, le tamoul, et chassé d'une certaine manière de la sienne, le français, et revient comme un leitmotiv, cette belle phrase de Jacques Derrida dans Le monolinguisme de l'autre, « Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne. » Il y a là un enjeu d'identité.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est l'idée aussi d'un double exil. Exil par rapport à la langue tamoule et l'exil par rapport à la langue française. Et c'est difficile de pouvoir exister sans langue propre. Il faut se façonner, s'hybrider et trouver sa place. Et ce texte de Subhatra est vraiment magnifique parce qu'il permet de comprendre à travers cette expérience de la langue toute la douleur et toute la richesse en même temps du, du transclasse qui est obligé de composer avec les langues, de les métisser, puisqu'elle va fabriquer certains mots qui ne peuvent pas être rendus dans la langue française. Donc elle va y faire intervenir du tamoul, parfois, dans l'intimité avec ses sœurs. Et c'est pour ça que cette expérience-là est extrêmement précieuse, puisqu'elle amène à réfléchir sur ce que signifie la notion d'identité, son insuffisance, le fait que lorsqu'elle est pensée comme figée, elle nous emmure. Et donc il faut pouvoir prendre du large et sortir de l'exil et voyager.
Alors, cette question, Chantal Jacquet, vous l'abordez en philosophe, et c'est cette question au fond de votre visée philosophique sur ce problème qui pourrait apparaître comme un problème sociologique ou historique. Je pense que certains sociologues ont pu s'en chagriner. Après tout, que vient faire une philosophe dans la question de la mobilité sociale? Or, chez vous, c'est pas évident, mais enfin, en tout cas, c'est intéressant de suivre le cheminement. Il part de Spinoza.
Effectivement, mon cheminement part de Spinoza, de la puissance d'agir que sa philosophie a pu me conférer, dans la mesure où il s'agit de penser dans un cadre déterministe. Il s'agit donc de sortir de l'illusion du libre arbitre sans pour autant se résigner, être dans une forme de passivité et subir sa propre destinée. Alors, c'est pour ça que cette philosophie était très très précieuse et a servi de soubassement pour forger le concept de transclasse, même si évidemment Spinoza ne pense pas à la mobilité sociale en lui-même. Et je voudrais dire à cet égard que les objets de réflexion ne sont pas donnés et présupposés, ils sont construits. Et à cet égard, il faut sortir des querelles de territoire. Un objet n'appartient pas à une discipline plutôt qu'à une autre. Le corps, par exemple, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question, il peut être faire l'objet d'une approche biologique, historique, sociologique, artistique, philosophique, et là-dessus, personne ne viendra le contester. En revanche, on a l'impression que parfois, on veut défendre des précarés. Or, les angles d'analyse ne sont pas les mêmes, et ces angles d'analyse qui ne sont pas les mêmes peuvent être révélateurs d'un phénomène et donner d'autres instruments pour les penser. C'est pourquoi mon travail ne consiste pas à vouloir m'emparer d'un territoire déjà constitué, mais à constituer mon propre objet de réflexion sur le terrain philosophique. Mais j'ajouterai à cela que, comme on est en train de penser des frontières de classe ou des barrières qui sont mises en travail. C'était intéressant aussi pour moi de travailler en relation avec les autres disciplines. C'est pour ça que la fabrique des transclasses, il y a un registre tout à fait différent de la première démarche, même si dans la première démarche, j'avais beaucoup besoin de recourir à la littérature, à certaines sociologies, celle de Norbert Elias,
Norbert Elias, par exemple, dans Mozart, sociologie d'un génie.
Voilà, puisqu'il essayait de penser le singulier, de saisir le singulier, une figure d'exception, entre guillemets, mais à travers cette saisie du singulier, penser toute une configuration, une constellation sociale.
Et là encore, pardon, je vous coupe, mais affaire de mots, parce que avec Spinoza, vous allez tourner ce mot de génie pour aller en chercher un autre, ingenium.
Ingenium, effectivement, parce que on retient de l'idée de génie l'idée qu'il y a quelque chose de singulier, mais dans l'ingenium, il y a l'idée d'une fabrication industrieuse pour montrer que les transclasses sont aussi le fruit d'une production du social. Ils ne se forgent pas tout seuls. Et dans cette idée d'ingenium, il y a l'idée de complexion. On le traduit par complexion. Et l'idée de complexion, c'est l'idée que la complexion, c'est l'idée d'un tressage, d'un nœud, de choses qui sont nouées ensemble. Donc penser transclasse, c'était penser la manière dont se produit ce changement de classe sociale à l'aide de différentes causes, de différentes déterminations. Autrement dit, penser un passage de transclasse, c'est pas se cantonner à penser les choses en termes économiques, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, mais il faut les penser historiquement, il faut les penser sociologiquement, il faut les penser à travers l'analyse familiale, une histoire familiale, à travers les rencontres, à travers les affects, et mettre en jeu aussi bien une psychologie sociale qu'une psychanalyse. Donc toutes ces déterminations doivent être imbriquées, c'est les déterminations qui jouent dans l'existence de tous les individus, qu'ils soient transclasses ou non. Et donc il fallait les penser ensemble, les tisser ensemble pour comprendre la production transclasse. Et c'est pour ça qu'après, dans la fabrique des transclasses, ce qui est important, c'est justement de mettre en commun nos différentes disciplines, parce qu'on a besoin de discuter ensemble, de dialoguer pour penser ce phénomène des transclasses sous l'angle sociologique, économique, historique. On a convoqué également aussi des psychanalystes, également des artistes pour pouvoir penser dans la diversité le même phénomène. Et c'est vraiment important qu'il y ait...
Quels artistes, par exemple?
Par exemple, dans le parcours, le réalisateur Jean-Louis Saporito, donc, oui. Qui, lui, passe par le média de l'image, du documentaire. Et donc, il essaye d'appréhender une réalité, puisqu'il fait en ce moment un documentaire sur cette question des transclasses, qui est en cours de réalisation, et qui donc permet de penser sous un autre registre que celui de la du concept. Donc c'était très important, cette approche-là.
Oui, on va y venir, mais quand même, moi, ça m'intrigue, cette histoire de Spinoza. Je voudrais qu'on reste une minute sur le concept encore. Vous venez de publier, enfin c'était en 2017, dans la très belle collection La philosophie à l'œuvre des publications de la Sorbonne, Spinoza à l'œuvre, composition des corps et force des idées. Vous y décrivez votre méthode, le pointillisme méthodologique, donc on va aller chercher un mot plutôt qu'un autre, et la force des idées. Comment vous expliquez ce retour en force d'un Spinoza politique, pour reprendre le titre d'un livre récent d'Étienne Balibar, qui cherche aussi, comme vous, ce qu'il appelle le trans-individuel, c'est-à-dire, au fond, un sujet qui ne serait constitué que par ses relations. Comment vous expliquez cette réactualisation de Spinoza aujourd'hui?
Bien d'abord, je pense que une philosophie, quelle qu'elle soit, elle naît bien évidemment dans un contexte historique donné. Elle est le résultat de cette constellation historique. Donc ces concepts doivent être évidemment pensés en fonction de la manière dont un philosophe se définit par rapport à d'autres philosophes, aux problèmes de son temps. Mais en même temps, il y a une force des idées, pour reprendre l'expression de Spinoza, qui persévèrent dans leur être, qui produisent des effets, et ces effets, en fonction de la puissance de cette pensée, eh bien, peuvent se faire sentir également bien au-delà de son temps. Et dans la pensée de Spinoza, la force qui fait qu'elle reste actuelle, enfin l'une des forces, c'est le fait qu'elle nous sort de cette idée d'un sujet coupé de toutes ses déterminations, d'un sujet solitaire. Elle nous invite à penser ce qu'on appellerait une ontologie de la relation, c'est-à-dire le fait que nous sommes essentiellement constitués par les relations sociales, nous sommes déterminés par des causes extérieures, et à notre tour nous les modifions, donc nous sommes sans arrêt dans l'inter-individualité, le trans-individuel de Balibar. Et de ce fait, Spinoza nous amène à nous pencher effectivement sur la réalité politique, en prenant en compte aussi ce qui a souvent été négligé dans la philosophie politique, le rôle déterminant des affects. Parce qu'il y a une grande tendance à vouloir écarter les affects du monde social, sous prétexte que on assimilait cela à une forme de psychologisme, comme si on mobilisait une théorie des caractères donnée toute éternité, alors que les hommes sont façonnés socialement. Mais chez Spinoza, précisément, les affects sont sociaux, et ça nous permet d'avoir des instruments extrêmement fin pour appréhender la singularité, pour appréhender les liens entre le commun et le singulier. Et je crois que c'est bien ça qui est au cœur de la politique, et qui permet de mieux comprendre qu'au fond, Faire de la politique, c'est pas seulement essayer de promouvoir une idée de communauté abstraite, c'est penser le singulier à travers le commun et le commun à travers le singulier, ce que font parfois certaines luttes qui sont appelées à l'intersection. Hein, et je crois que chez Spinoza, c'est précisément ça aussi qui fait sa force, c'est le fait qu'on doit penser toute une série de déterminations ensemble sans préjuger de la priorité d'une détermination. Puisque le modèle, par exemple, philosophique marxiste avait eu tendance, à travers une lecture peut-être un peu réductrice, à privilégier l'économique en dernière instance. On ressort souvent cette formule alors qu'elle a été nuancée par Engels. Donc on a tendance à transformer, à réduire la philosophie politique à l'économie. Or, à travers Spinoza, on voit que, Spinoza a très peu écrit sur l'économie, on voit que la politique, elle est nouée aussi d'autres choses. Oui. Donc ça redonne une puissance d'agir, ça redonne une pensée du commun qui soit traversée par la coopération des puissances d'agir et des affects mis en commun.
Et c'est ce qui vous encourage à faire une histoire sensible des transclasses qui, justement, passe par la littérature. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette question. Vous la sollicitez beaucoup, Chantal Jacquet, ou en tout cas celles et ceux qui participent à ce livre, La Fabrique des Transclasses. Alors, vous utilisez une littérature, Annie Ernaux, par exemple, Didier Ribon, qui est une littérature lectrice de sciences sociales. Donc, c'est pas tout à fait étonnant, d'une certaine manière, de retrouver un souci sociologique dans une littérature qui en a, s'en est nourrie d'une certaine manière.
Effectivement, c'est une littérature qui est marquée par ce qu'on appelait les auto-sociobiographies, à la manière d'Annie Ernaux ou de Didier Ribon, ou plus récemment d'Edouard Louis. Mais pas seulement, parce que il y a bien sûr des autobiographies simples, mais aussi des fictions. Et je crois que la fiction donne à penser parce que elle permet de prendre du recul. Et par exemple dans les transclasses ou la non-reproduction, la référence majeure, c'est quand même le rouge et le noir.
Oui.
C'est le rouge et le noir qui est une pure fiction et qui donne à voir, au fond, toute la complexion du transclasse, la manière dont on peut lire son histoire, la comprendre, soit comme une propulsion par le milieu ou une expulsion par le milieu, et le milieu social. Et en ce sens-là, je crois que la littérature aide à penser, la littérature pense, parce qu'elle est capable, finalement, de donner... À sentir, à percevoir et à comprendre un singulier universel. Donc c'est ça toute sa puissance. Or, penser les transclasses, c'est toujours penser l'imbrication d'une grande histoire et d'une petite histoire, oui. Donc ce singulier universel.
Oui, vous parlez de Stendhal dans les transclasses ou la non-reproduction, et d'ailleurs ça s'éclaire par un des articles du collectif La Fabrique des Transclasses, qui est celui de Renan de Calan, sur justement cette littérature du 19e siècle qui est bourgeoise et en même temps qui manifeste le fait que l'écrivain soit un déclassé volontaire. Et ça vous permet de comprendre, au fond, ces rapports d'identification, de différenciation, aussi de mimétisme. Par exemple, vous dites, voilà, Julien Sorel, il imitait Napoléon. Et donc, d'une certaine manière, c'est ça qui le fait agir. Et aujourd'hui, les Julien Sorel d'aujourd'hui, quel Napoléon imite-t-il ?
Alors effectivement, il ne peut pas y avoir de transclasse sans mimétisme, puisque comment sortirait-on de sa classe sociale et de la reproduction si on n'avait pas d'autres modèles sous les yeux que ceux de ses parents, qui nous incitent effectivement à perpétuer le même genre de vie. Donc la présence ou la fabrication de modèles alternatifs est décisive. Et c'est pour ça que dans l'article de Renan de Calan, cette idée du déclassement volontaire par la fiction est importante, parce que il faut présenter des fictions, des représentations qui peuvent avoir des effets de réalité tout en étant de pur songe. Alors, peut-être qu'on peut présenter le modèle de Julien Sorel au 19e siècle comme imitant Napoléon lui-même, comme stimulant aujourd'hui notre imaginaire, mais les modèles actuellement, ce sont des modèles qui qui vont de transclasse, mais ce sont des modèles qui seront empruntés aussi à la littérature et aux récits qui sont faits, et il n'est rien qu'à voir le succès de d'Annie Ernaux pour comprendre comment elle offre à la fois un modèle de femmes autres, de femmes qui arrivent à vivre les contradictions ou la lutte des classes à l'intérieur d'elle-même, par une forme de conciliation par l'écriture. Alors, c'est pas le seul modèle possible, mais je crois que si elle a autant de succès, c'est que précisément, on voit comment l'écriture peut avoir une fonction d'expression, de porte-voix, de porte-parole de la classe d'origine, de thérapie aussi, que cette écriture qu'elle veut, par exemple, une écriture qu'elle appelle l'écriture blanche, elle a pour fonction aussi d'exprimer le mode de communication, de représentation de sa propre famille. Et je pense également aussi à l'importance que peut avoir aujourd'hui Camus, le renouveau des études camusiennes, notamment telles que Laurent Boff peut les développer.
Également dans un livre, les publications de la Sorbonne.
Voilà, d'ailleurs. Également dans un livre, les publications de la Sorbonne. Cette figure de l'étranger, cette figure aussi de Camus parlant de sa propre mère, de sa propre trajectoire, très 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 émouvante et en même temps très réflexive. C'est pourquoi je pense qu'effectivement la littérature nous offre des modèles alternatifs.
Mais quand même, j'ai une question à vous poser, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, Chantal Jacquet, c'est que l'ensemble, on l'a bien entendu, de ce dispositif, d'abord théorique, puis choral, est destiné à mettre un petit peu derrière, je dirais, une autobiographie oblique. C'est aussi votre vie, alors vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais quand même, page 57 des transclasses, vous parlez d'un petit hameau en Savoie, où la vie était très dure, où il y avait des bergers qui travaillaient à la mine, ou parfois comme intermittents de la station de ski, où les pentes étaient si raides qu'il fallait remonter la terre qui descendait dans des civières l'été. Et dans ce village, dans les années entre 45 et 75, 50 habitants, il y a eu au total 3 instituteurs, 4 normaliens, dont 3 professeurs agrégés de philosophie, 1 professeur d'EPS, et parmi ces 4 normaliens, École normale supérieure de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses, une est devenue professeure à l'université, à la Sorbonne, dites-vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce hameau ?
Alors précisément, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans ce hameau, on a un exemple de non-reproduction qui ne renvoie pas à un seul individu qui apparaîtrait comme transfuge de classe.
Vous étiez plusieurs.
Voilà, c'est une communauté. Nous étions plusieurs et ce qu'il y a à comprendre, c'est précisément cette constellation-là, qui est singulière. Alors, il peut y en avoir dans d'autres villages. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à penser au-delà de la simple famille, au-delà de la simple individualité, prendre en considération donc une micro-communauté, ses liens avec l'extérieur, l'apport de l'école, la manière dont certains ont pu passer à travers les mailles et d'autres ont été exclus.
Et puis il y avait aussi une institutrice.
Il y avait aussi une institutrice ou plusieurs puisqu'elles se sont succédées sur plusieurs générations. Ce qui veut dire aussi qu'il y a la force des institutions qui peuvent à la fois produire la reproduction mais aussi la non-reproduction, et donc tout ça c'est à comprendre ensemble. Et c'est vrai que dans mon travail sur les transclasses, il y a une recherche d'analyse et de fabrication d'outils pour comprendre le monde social des transclasses, mais également ma propre trajectoire. Donc le livre a aussi pour fonction à la fois de construire une sorte de modèle commun, de structure, mais à travers cette structure, de faire entendre une polyphonie.
Merci Chantal Jacquet. Matière à penser, Chantal Jacquet, Frédéric Changenet, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. À demain.